Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Il y a les enquêtes, enquêtes qui piétinent.
Philippe-Vincent Foisy.
Puis à un moment donné, on entre dans un cercle vicieux.
Stéphane Bureau.
On s'expose à ce que les gens disent, ben, il y a un poisson dans le dos, là. Mais ensemble, ils forment la majorité. Ils le voient pas.
La rencontre.
D'un autre côté, on s'en va à table des négociations.
D'essayer de comprendre.
Elles sont où, les solutions? Parce que visiblement, ça en prend plus qu'une.
Appuyez sur tous les boutons.
La rencontre, Bureau Foisy.
Stéphane Bureau, bonjour.
Philippe Vincent, bonjour.
Alors, un petit mot sur l'OSM qui va se promener en Europe.
Ben, en fait, surtout parce que j'étais hier soir dans la salle de l'OSM, la Maison Symphonique. Bonne nouvelle, nous partons effectivement collectivement aux côtés de l'orchestre en tournée pour 6 grands spectacles dans des métropoles européennes, en compagnie d'un des plus grands pianistes de l'heure, Víkingur Ólason, qui est un Islandais absolument génial. Une espèce, j'ose le parallèle, de Glenn Gould du Nord, mais pas canadien, islandais, qui donne aux partitions de Jean-Sébastien Bach une espèce de sonorité, enfin, aussi originale que pouvait le faire Glenn Gould, mais qui hier, surtout, faisait la preuve qu'il peut, avec un orchestre, faire de la magie. Lui interprétait concerto pour piano de Ravel, mais l'orchestre avait tout un programme sous la direction de Ravel, Bayaré, qui est exceptionnel. Je ne sais pas si tu te souviens à son arrivée, on le voyait un peu comme une espèce d'ovni musical.
Surtout avec les cheveux, là, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas ça, se disaient « Wow, tout, c'est qui lui? »
Toute une tête originale, une direction aussi assez originale. Il saute sur son podium, il est très enjoué, très énergique. Mais c'est clairement aujourd'hui un acteur que je dirais fondamental de notre vie culturelle québécoise. On a souvent tendance à se gargariser de nos succès culturels à l'étranger en parlant de Céline, de Robert Lepage, du Cirque du Soleil, mais l'OSM fait aussi bien. C'était rock hier soir. Je suis très sérieux, c'était comme un show rock. Les gens se sont levés, ont applaudi à tout rond pour la performance de Víkingur Ólason, bien entendu, avec un rappel, ce qui est très rare. Tout petit rappel après sa prestation sur le Ravel. Mais on a joué une pièce de Shostakovich, qui n'est pas nécessairement le compositeur le plus facile. C'est une affaire qui doit être entendue en salle de spectacle. C'est pas quelque chose qu'on écoute dans son salon, mais silence religieux et vraiment à la toute fin, les gens se sont levés, je le répète, comme dans un show rock. C'était écœurant. Ça donnait le sourire. Ce programme sera encore présenté ce soir. Je suis très fier de les savoir partir sur la route pour nous représenter. Savoir aussi que ce pianiste exceptionnel, c'est une grande star. C'est probablement un des pianistes les plus foufous dans le monde de la grande mélomanie. Et qu'il ait choisi de s'associer pour cette tournée à l'orchestre. Je pense que c'est formidable et ça dit quelque chose d'un des fleurons de notre culture dont on parle pas et qu'on associe toujours à ça à quelque chose d'élitiste. Or, ce l'était pas et ce ne l'est pas. La musique dite classique, c'est à la portée de tous quand on fait l'effort. Et hier, ça avait quelque chose de...
Mais les Islandais produisent des pianistes de qualité, là. C'est assez hallucinant. C'est,
300 000 habitants, je pense. Ouais. Comme ça,
c'est Olafur Arnolds, qui est un des contemporains vraiment, il est un peu
extraordinaire.
Fucké,
extraordinaire.
Là, mais qui est vraiment hot à écouter si jamais vous voulez. Tu sais, comme Jean-Michel Blais, là, dans cette même gang-là de pianistes qui sont un peu plus modernes.
Et dans le cas de Víkingur Ólason, ce qui est le fun, c'est justement si vous avez ce genre de sensibilité de musique moderne, piano, ben il donne à des partitions classiques quelque chose d'éthéré, d'aérien, qui rapproche effectivement de ce qu'on consomme en ce moment. Et ça rend cette musique qu'on pense rébarbative très, très accessible. Un grand moment de joie, de communion et de sourire. On en a besoin parce que c'est pas toujours joyeux ce qui se passe dans nos vies.
Mais je le sens, je te sens très, très joyeux et revigoré par ce spectacle.
Je le suis pas mal tout le temps par ailleurs, même si le monde est chagrin.
Parle-moi de COVID. Luc Boileau, on vient de lui parler, dit, faut être inquiet, 3, 4, 5 sur 10, là. 10 étant Noël passé, couvre-feu, on arrête la diffusion de télé pour faire peur, pour dire au monde attention.
Ben, je l'ai trouvé d'ailleurs, pas rassurant, mais très posé. Et ça change, non pas par rapport à lui, mais par rapport au discours collectif des deux dernières années, probablement aussi parce que la situation a changé. Mais j'étais très heureux de l'entendre il y a quelques instants avec toi, dire les choses posément. Ce qui me faisait un peu sourire hier ou me fait me poser des questions, comme toujours, c'est 10 jours après les élections, soudainement, la 8e vague peut revenir dans l'actualité. C'est comme si pendant les 30 jours de la campagne, il n'y avait aucun espace pour discuter de ces choses. Et comme si
soudainement, mais il y avait eu un point de presse. Il y avait un point de presse de Luc Boileau, je pense que c'était le 29 septembre.
Et le ministre Dubé était de la partie hier.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Pas alarmiste, mais soucieux de rappeler à tout le monde qu'il est temps de se faire vacciner. Ce qui nous rappelle à nous tous qu'il y a 25% à peu près des Québécois, là, c'est des chiffres qui bougent, mais 25% des Québécois qui n'ont pas eu leur dose de rappel, que ce soit la 3e, la 4e ou la 5e, parce que maintenant, on parle de dose de rappel et non pas de 3e, 4e ou 5e dose, qui donne des fois l'impression qu'on est sur un abonnement plus que sur une vaccination. Donc, question, est-ce que les Québécois seraient soudainement devenus irresponsables ou égoïstes? Parce que c'est comme ça qu'on nous a présenté l'enjeu au départ.
L'enjeu a changé aussi. On était au départ auprès d'une catastrophe dans le réseau de la santé, alors que là, on a 2000 hospitalisations, puis on dit, on est capable de l'endurer, on est capable d'en prendre. Il y a beaucoup plus de monde qui l'ont, mais il y a beaucoup moins de cas graves. Il faut quand même comprendre que le paradigme a changé pas mal depuis, là.
Je le comprends parfaitement. Je ne fais que me souvenir de la manière avec laquelle on a présenté les choses. Et aujourd'hui, effectivement, donc une population qui semble avoir moins d'appétit, c'est ce que le porte-parole de la santé publique disait à l'instant à l'antenne, qu'on ne bouscule pas au portillon pour être vacciné. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'après cette crise, il y a peu de volonté d'exercice d'introspection. Ça fait quelques semaines qu'on travaille ensemble, mais on a eu l'occasion, puis c'est pas parce qu'on est originaux, de constater que le monde est détraqué. Il l'est pour un paquet de raisons, mais c'est évident que ce que nous avons vécu depuis 2 ans est pour beaucoup responsable de ce monde patraque, que ce soit les chaînes d'approvisionnement, l'économie et la situation économique que nous allons subir, parce que je pense qu'on va subir les contre-coups de tout ça. Donc, on est prêt à faire enquête, puis je pense que c'est louable, sur l'utilisation en février dernier de la loi sur les mesures d'urgence. Pourquoi pas sur l'ensemble des mesures qui ont été adoptées pendant cette crise, pas seulement au Canada. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'appétit en Europe et ailleurs? Il y en a un peu, on va y arriver. Mais comment se fait-il qu'on est si peu intéressé à faire une introspection pour se demander ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, ce qui a peut-être été défectueux, est-ce qu'on veut recommencer? Parce que des épidémies, on est tous arrivés à la conclusion qu'il y en aura probablement d'autres. Et il y a des questions qui se posent. Et au moment, d'ailleurs, où le ministre Dubé faisait son point de presse, ou sinon la veille, lundi, il y a Janine Small, la présidente de ce qu'on appelle les marchés développés chez Pfizer, qui témoignait à la place de M. Bourla, le grand patron de la multinationale, qui admettait, devant un comité parlementaire de l'Union européenne, que la multinationale n'avait pas testé, quand le vaccin a été déployé, l'impact donc de celui-ci sur la transmissibilité. Alors, on va dire, qu'est-ce que ça change? C'est assez fondamental parce que c'était, tu t'en souviens quand même, l'argument massu au début de la campagne de vaccination. On disait, grâce au vaccin, on va stopper la transmission. Plus on aura vacciné de gens, moins le virus pourra se transmettre.
Mais l'argument au départ, c'était, on a étudié sur le fait que on pouvait être contaminé avec le vaccin ou pas. Donc, si on avait moins de risque de l'attraper, ce qui était avec le premier variant réaliste avec le vaccin, on l'a limité à la transmissibilité. On n'a pas fait d'études de groupe sur la transmissibilité, mais on a fait des études individuelles qui disaient, si toi t'as le vaccin, tu réduis tes risques de développer la maladie, donc de la transmettre, là.
Mais ce qu'on a constaté, à moins que tu ne sois pas d'accord avec ça, c'est que l'impact sur la transmissibilité du virus n'était pas très grand. Puis effectivement, parce qu'il y a eu des variants, mais l'arrivée de variants n'était pas une surprise pour personne. À aucun moment, on a dit, sinon pour ceux qui voulaient se mettre la tête dans le sable, un virus, ça mute. Et on dira ensuite, effectivement, c'est plus tout à fait le même virus et l'immunité telle qu'acquise par le vaccin. Puis encore une fois, moi, je veux pas rentrer dans un débat de science parce que je n'ai pas la prétention d'être scientifique. Ceci étant dit, politiquement, le souvenir que j'ai, à moins que tu aies un souvenir différent, c'est qu'on parlait beaucoup de la nécessité de la vaccination pour freiner la transmission. C'est d'ailleurs pour ça, si Simon Rebonne aussi, qu'on disait qu'il est important éventuellement de faire vacciner les enfants, non pas pour les protéger, puisqu'ils étaient très peu hospitalisés, très peu malades, mais pour faire en sorte que ces enfants, petits-enfants dans le cas des grands-parents, ne leur donnent pas le virus, fasse en sorte qu'il y ait un arrêt, qu'on stoppe la transmissibilité. Et c'est pas exactement ce qui s'est passé.
Il y a comme un mélange de deux choses. T'sais. En termes techniques, la transmissibilité, c'est une façon d'étudier en groupe, alors qu'on disait, ben, le vaccin, à la base, fait en sorte que tu réduis tes risques d'attraper la COVID. Donc, si tu ne l'as pas, tu ne la transmets pas.
Ce que nous avons surtout constaté depuis, c'est que l'argument massue aujourd'hui, c'est on réduit aussi les hospitalisations et les cas graves. C'est-à-dire que si on chope la maladie, on sera peut-être mieux protégé contre un développement grave de celle-ci. Donc, c'est un argument qui est tout à fait valable. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est une espèce de figure obligée. Il faut toujours, quand on parle de ces choses-là, dire « j'ai été vacciné ». Évidemment, j'étais parmi les premiers à être vacciné. Si j'avais à faire la liste de tous mes vaccins depuis que je suis enfant, je pense que mon carnet de vaccination doit avoir
mais
parce que j'ai beaucoup voyagé.
Tu vois, je lis ce qu'un infectiologue a dit, Alain Lamarre. Il dit « il y en a eu, par contre, des études, 3-4 mois après l'homologation, puis on voit que les infections asymptomatiques étaient réduites d'au moins 80%. Donc, ça réduit la transmission. »
Que je reviens sur au départ, donc, puis encore une fois, l'idée, c'est pas de douter de ce que les infectiologues fassent leur travail, ils le font certainement mieux toi et moi, c'est que ça n'avait pas été validé par l'entreprise. Donc, peut-être que dans les circonstances du déploiement rapide, c'était nécessaire. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est à quel moment pourrons-nous ensemble, parce que pour convaincre ceux qu'on a dit sceptiques, il faut que tu mettes sur la table 100% de l'information. Il faut que tu acceptes que tout soit débattable. Il faut que tu acceptes qu'il n'y ait pas de tabou, que tu puisses discuter de tout sans aucune réserve afin que les plus sceptiques puissent être convaincus. Et à plein de moments, quand on déployait, c'était non pas une profession de foi, parce qu'effectivement, comme toi, je constate que des gens étaient prêts à discuter de certaines choses, mais on a vendu toujours la chose en disant « il faut croire, il faut croire, il faut croire ». Or, la science, parce que et c'était la science. Et la science, quant à moi...
Ça nous a appris qu'elle évoluait pas mal, la science.
Ben, c'est-à-dire que c'est pas un absolu. La science, elle est aussi bonne que les hommes et les femmes qui la font, avec leurs erreurs, avec leurs découvertes fortuites et avec leurs mensonges. Cet été, en juillet, on a découvert que la pierre d'assise de ce qui était probablement la découverte à l'origine de la science sur la maladie d'Alzheimer, cette pierre d'assise reposait peut-être sur des documents bidouillés, des documents qui avaient été falsifiés par le docteur ou le chercheur Sylvain Lenné, Sylvain Moribon, qui est au Minnesota. Et tout le monde en a un peu parlé. Mais on n'est pas allé au bout de l'histoire. Je suis très curieux parce que ça voudrait peut-être dire que des milliards de dollars ont été investis sur une prémisse qui n'était pas la bonne. Et le scientisme, cette idée que la science est imparable, c'est pas une erreur. C'est-à-dire que c'est notre souhait à tous. On veut que la science soit au-dessus de tout soupçon et elle nous a fait substantiellement avancer. Mais elle n'est pas parfaite et elle n'est surtout pas parfaite quand tu es dans une situation de crise et elle mérite que tu poses tout le temps des questions. Et notre job à nous, de journalistes, de gens qui faisons de l'information, c'est de les poser ces questions. Pas d'être prescripteur aveugle parce que si on le devient au nom d'un danger imminent, ben je pense qu'on fait abstraction de notre premier rôle qui est de dire OK, parfait. S'il y a des sceptiques, posons les questions. Allons au bout de l'affaire. Et je reviens encore une fois à l'exercice qui se fait en ce moment à Ottawa, où on dit, on va revenir sur l'adoption de cette loi sur les mesures d'urgence. Est-ce qu'on aurait intérêt collectivement à revenir, faire un pas en arrière et dire qu'est-ce que nous avons fait sur tous les fronts? Tu sais, on parle de vaccins. C'est peut-être là que la science est la plus aboutie. On nous a aussi expliqué que les confinements étaient la moins mauvaise des solutions. Donc, est-ce qu'on est encore convaincu de ça? Je regarde les débordements de cette logique en Chine. Est-ce qu'on voudrait, nous, être en Chine aujourd'hui?
Mais on est peu, je pense, à avoir cet appétit-là pour une enquête, mais ce serait quand même sain de faire un vrai, comme disent les Anglais, un post-mortem. Oui, mais au Québec, oui, un peu partout dans le monde aussi. Là. Je pense que j'ai l'impression que ça va prendre une poussière qui retombe, un peu d'eau qui coule sous les ponts, qu'on soit en mesure de dire, faudrait peut-être revoir ce qu'on a fait. Là, je pense qu'on est encore trop dedans, mais les gens sont juste tannés d'en entendre parler. Mais d'ici un an ou deux, le fruit sera peut-être mûr. Là.
C'est le choix qu'on peut faire. Tu dis, ils seront peut-être tannés d'en entendre parler. Ça a bousculé nos vies.
Oh,
on a beaucoup utilisé l'expression « sans précédent ». Alors, s'il y a un cas de sans précédent, c'est ce que nous avons collectivement vécu dans le monde, pas seulement au Québec, depuis 2 ans, je pense que c'est pas le moment d'être tanné. Je pense que c'est au contraire le moment de se dire, si on est un peu moins collectivement émotif, est-ce qu'on peut en profiter pour poser des questions, pour justement pas faire des gotcha puis dire « ah ah ». Non, c'est de revirer toutes les pierres. Pourquoi en ce moment, des pays, par exemple, ont stoppé la vaccination, pas interdite? Pourquoi ont-ils fait ce choix? Ou recommandé, par exemple, on parlait de ça il y a 2-3 semaines, je pense, le Danemark qui dit pour les moins de 50 ans. Moi, je suis simplement curieux de savoir pourquoi certains font ça, d'autres pas. C'est la meilleure manière d'avancer. Et t'es pas conspirationniste parce que tu veux savoir. Et il y a eu à un moment donné cette espèce de tentation où toute question posée devenait le fait de gens qui étaient ou paranoïaques ou refusaient le bon sens, parce que ça ne peut pas être acceptable.
On a quand même des collègues qui ont posé pas mal de questions tough pendant pas mal de points de presse.
Oui, ils sont pas conspirationnistes. Pas
bon.
Est-ce que tu entends que ça ne s'est pas fait? Je pense que parce que à des moments clés, on sait la peur a dominé, l'inquiétude, la méconnaissance de ce que nous vivions. On a, et là-dessus, je suis convaincu, on a choisi d'être des citoyens, peut-être, avant d'être des gens d'information, tout en étant en même temps au fait de nos responsabilités. Est-ce que maintenant, il est important de se dire, bon, ben, on a de la distance et on peut revenir sur ce qui s'est bien fait, sur ce qui s'est moins bien fait? Tu sembles sceptique et penser que ça a été mené parfaitement d'un
côté. Ah, c'est pas ça que je dis du tout, là. Non, je suis d'accord que ça prend une enquête publique puis qu'il faut qu'on revoie ce qu'on a fait puis qu'on apprenne de ce qu'on a fait.
Pour qu'on soit capable de se préparer, dans la mesure où on accepte que c'est à l'horizon quelque chose qui pourrait se reproduire, quels sont les enseignements et les meilleurs moyens de mieux voir. Et surtout, je pense, de ne jamais refuser de débattre de ces choses-là, surtout quand on veut convaincre des gens qui sont plus réfractaires que d'autres. Parce que si l'impression de ce que le silence se fait, tu nourris la paranoïa.
Stéphane, à demain.
Ciao.
Salut.